Radio Belle de Mai.
Radio Belle de Mai.
8, 8, 8.
C'est bien entendu le 88.8. Et vous êtes donc en direct sur Radio Belle de Mai. Voilà donc troisième émission en direct donc sur ce 88.8, sur cette radio éphémère qui est cette radio Belle de Mai. Le premier direct, c'était au cinéma Le Gyptis. Le deuxième direct, c'était hier soir, hein, et c'était à l'Embobineuse. Et puis aujourd'hui, eh bien, nous sommes dans une radio qui s'appelle Radio Grenouille, qui est une radio à l'intérieur du quartier de Belle de Mai. Et oui, et nous sommes à la friche Belle de Mai. Et nous sommes en présence de beaucoup, alors là, de beaucoup d'acteurs de ce quartier, mais en tout cas, deux acteurs importants, deux collectifs, ou un collectif et une association. L'association, le collectif, pardon, d'habitants Brouette et compagnie. Avec Claude Renard. Bonjour Claude, bonsoir. Au micro Claude. Voilà, prends un petit micro.
Bonjour, ravi d'être là.
Le collectif Brouette et compagnie, on en a parlé un petit peu, bien sûr, dans Radio Belle de Mai, notamment hier. Mais quand même quelques mots sur ce collectif d'habitants, un collectif qui s'est construit quand même autour d'un projet d'une bibliothèque dans le quartier de la Belle de Mai, une bibliothèque qui n'existe toujours pas. On va en revenir dans cette émission sur ce projet de bibliothèque. Mais quand même quelques mots, et peut-être pour lancer un peu la présentation, Claude, est-ce que c'est un collectif qui a pour objet de s'emparer de la maîtrise, d'une certaine manière, du quartier.
De la maîtrise d'usage. Nous, on ne veut pas être simplement les experts d'usage, termes à travers lesquels on voudrait bien nous laisser la parole, mais on veut aussi en avoir la maîtrise. Et on se bat effectivement pour quelque chose qui n'est pas acquis, qui est le droit à la maîtrise d'usage, sous les différentes formes qu'on peut imaginer. Pour nous, le mot « participation » doit, disons, changer. C'est devenu une ritournelle et on doit pouvoir se l'approprier et se le faire et obtenir effectivement que ça devienne un droit. C'est un droit qu'on imagine même à l'échelle européenne, le droit à la maîtrise d'usage. Voilà. Et à part ça, effectivement, on est un collectif d'habitants. On se dit, on n'est pas en association, on se dit anarchiquement cohérent et même. On dit qu'on est
des parasites
vertueux. Merci, parce que l'émotion, n'est-ce pas, d'avoir le micro fait qu'on oublie les choses. Et on sait que ce quartier, moi, quand je suis arrivée, j'ai constaté que ce quartier était un monde où il y a effectivement les femmes voilées, les femmes dévoilées, ceux qui rouspètent, ceux qui crachent par terre, ceux qui brûlent les poubelles mais qui préféraient effectivement se réchauffer. Il y a une ambiance, une activité, une chaleur qui est assez extraordinaire. Et j'ai trouvé avec les Brouettes la possibilité de faire que cette énergie, ce Stimmung comme on dit en allemand, cette ambiance puisse devenir un fer de lance des transformations de ce quartier. Parce que ce quartier, effectivement, a subi au cours des années une dévalorisation liée au départ des ouvriers, des différentes usines qu'il y avait et des industries qu'il y avait sur ce quartier. Hier, vous avez fait une émission, vous avez montré toutes les activités qu'il y avait sur la friche. Beau lapsus, qu'il y avait sur la Belle de Mai. Et qui aujourd'hui soit sont devenus des lieux culturels ou souhaitent réellement pouvoir encore le devenir ou même s'agrandir. Et puis il y a effectivement le chômage et les vieux retraités avec des petites retraites et donc une précarité qui a été soulignée à travers des études au niveau national. Et contradictoirement, on a donc une double peine, on pourrait dire, sur ce quartier, puisque d'un côté, il y a cette difficulté-là du vieillissement, de l'abandon du travail sur notre quartier. Et puis, il y a un abandon qui a été de la ville de Marseille à l'encontre de ce quartier. Alors, on peut après se faire des idées sur le pourquoi la Belle de Mai a été à ce point-là abandonnée en ce qui concerne les services publics, l'ensemble de la vie sur le quartier. Mais je pense qu'on peut se dire qu'après tout, ça va devenir un bon terrain foncier pour l'avenir. Et c'est ça qui nous inquiète, parce que ce terrain foncier, on veut en avoir la maîtrise d'usage.
Merci Claude pour cette présentation de ce collectif Brouette et compagnie. Serge Pissot, bonsoir.
Bonjour.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Oui, c'est déjà le soir, effectivement. Il fait nuit. Oui, ça y est. Et vous êtes le président du comité d'intérêt de quartier. Là aussi, on en a un petit peu parlé hier lors de cette émission à l'Embobineuse, mais représentons à nouveau, redites-nous à nouveau ce que regroupe ce comité d'intérêt de quartier.
Alors le comité d'intérêt de quartier, les comités d'intérêt de quartier à Marseille fêtent cette année leurs 90 ans. En fait, le premier comité d'intérêt de quartier qui s'est créé, il s'est créé sur les hauts de Mazargues quand on a construit le grand collecteur. Et les habitants du quartier se sont un peu mobilisés pour aider les ouvriers qui travaillaient dans des conditions atroces et ont commencé à les aider, à leur apporter à manger, à leur apporter à boire, à leur donner des vêtements. Et puis ça a donné l'idée à ces gens-là de se rassembler pour défendre les intérêts de leur territoire, du quartier en l'occurrence. Marseille, c'est une somme de petits villages, c'est 225 quartiers. Et c'est comme ça que l'idée de comité d'intérêt de quartier est née. Et c'est comme ça que les habitants se sont organisés, regroupés autour de ce qu'on appelle à Marseille les CEQ. C'est un sigle, CEQ, mais c'est devenu un nom propre maintenant. On voit souvent des gens dire CEQ de quartier. En fait, ça veut dire la même chose. Et c'est quoi le comité d'intérêt de quartier? Alors moi, j'ai une formule un peu lapidaire et raccourcie. Le comité d'intérêt de quartier est aux citoyens ce que le syndicat est aux travailleurs. On est dans un engagement de représentativité, de représentation, un peu moins officiel que le sont les syndicats, mais c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire qu'on est une association loi de 1901, regroupée par quartier, rassemblée par fédération au niveau des arrondissements et rassemblée au sein de Marseille dans une large confédération. Et la préoccupation, c'est quoi? C'est le quotidien d'un quartier, du plus banal, du plus vulgaire et du plus basique, au plus ambitieux en fonction des enjeux. Et c'est vrai que le territoire de la Belle de Mai est un quartier qui a besoin de mobilisation.
Alors ce projet Radio Belle de Mai, il a été évidemment imaginé avec les habitants. Et si vous êtes là, tous les deux, Claude et Serge, c'est parce que cette émission que nous allons là ouvrir, nous l'avons imaginée avec vous sur vos désirs d'une émission qui soit construite autour de différentes thématiques. Une thématique autour de la question des équipements dans le quartier de la Belle de Mai, comment ils se répartissent sur les territoires de ce quartier. Cette question, centralité ou pas centralité dans ce quartier, par exemple, et des équipements culturels, entre autres, mais pas que, il y en a beaucoup. Aussi, un autre plateau autour de la question du devenir des casernes, les casernes du Muy, et puis, évidemment, la question derrière ces casernes de Belle de Mai comme nouveau grand centre-ville de la grande métropole. D'un seul coup, nous verrons que là, la Belle de Mai soit s'agrandit, soit disparaît. Je ne sais pas, on verra, on en parlera. Un autre plateau autour de la question des écoles à la Belle de Mai, car si la rentrée scolaire a fait beaucoup de bruit à Marseille sur les rythmes scolaires, il y a eu d'autres problématiques dans cette rentrée, et évidemment la question du manque d'écoles à la Belle de Mai, qui est un problème récurrent. Tout de même, et ça, on en parlera aussi sur un autre plateau. Et puis, on parlera de la question des transports sur la Belle de Mai, les transports en commun, de la question aussi de la circulation, circuler à pied, mais circuler en fauteuil roulant. Et là, c'est une autre affaire. Et on parlera sans doute un petit peu aussi des différentes places ou placettes qui peuvent exister dans le quartier de la Belle de Mai. Enfin, on parlera de la question de la santé, et de la question des logements. À la Belle de Mai, il y a eu un grand programme porté par la politique de la ville sur la santé à Saint-Mauron. Belle de Mai, on s'y met tous. C'est un programme qui s'est déplié sur 2011-2014. Et donc, on fera un peu le point sur ce programme. Voilà une émission que vous avez imaginée, qu'on a imaginée en tout cas avec vous. Alors, si vous le voulez bien, on peut peut-être commencer sur le... Claude, tu veux ajouter quelque chose?
Juste pour cadrer, moi, si je suis là, c'est parce que j'espère que ça va devenir un bref moment de politique où le présent advient. Et c'est ce qu'Hannah Arendt dit, et ça me semble très important qu'on crée une brèche entre le présent et le futur. Mais c'est le présent, c'est aujourd'hui, et c'est là-dessus qu'on va polémiquer par moment et discuter. Et donc c'est les conversations démocratiques, ça s'appelle, et j'espère que ça nous permettra de construire les cadres qui vont nous permettre de continuer à faire notre boulot, le CIQ, les brouettes et les habitants.
Je précise que vous pouvez suivre cette émission sur Twitter avec le hashtag Radio Belle de Mai. Vous pourrez suivre ces émissions et vous aurez des documentations sur tout ce qui va se dire ici, renvoie vers des articles et ainsi de suite. Et bien entendu, si vous y apportez des commentaires aux échanges, ils seront rapportés sur le plateau. Et merci d'ailleurs à Julien et Tiffen pour ce live tweet.
Ça me vient pas.
La chanson que me chantait ma grand-mère.
J'y vais. En quelle langue vous voulez? Oh, j'aurais fredonné.
Mais tu vas passer à la télé, vas-y.
1, 2, 1, 2, 3.
Tiene casi alia a buscarme. Tiene casiao, vaya a buscarme como un caballo sin brillo.
Radio Belle de Mai.
Les équipements dans le quartier de la Belle de Mai. Vous avez pu entendre sur Radio Belle de Mai une promenade sonore dans le quartier de la Belle de Mai. Et Serge Pissot, à un moment donné, vous intervenez dans cette promenade et vous dites quelque chose de très étonnant, une sorte de conception très, très originale de ce que peut être un équipement. Vous dites, la place Cafaud, c'est le centre social de la ville. Du quartier, pardon. C'est le centre social du quartier. C'est-à-dire que on pourrait dire un centre social, maintenant c'est un bâtiment, voilà, on rentre, on sort. Vous dites non, c'est le centre social, c'est la place Cafaud.
Oui, le centre social de la ville, c'est le coup d'après. Là, c'est le centre social du quartier. Oui, parce que la Belle de Mai est organisée autour de deux places. Et c'est ça qui la rend intéressante, c'est la place Cafaud, la place Cadena. La place Cadena, c'est la place économique, commerciale, c'est la place nourricière. On va faire ses courses, on se rencontre, mais on a une raison de se rencontrer, c'est les courses, c'est le quotidien. La place Cafaud, on s'y installe pour le plaisir. On s'y installe pour le plaisir. Il y a en face de la place Cafaud, il y avait le cinéma Le Gyptis, qui est devenu un théâtre, qui est aujourd'hui un cinéma. Et puis, il y a ce côté convivial qui fait qu'on s'installe et puis on vient discuter là, parce qu'il y a le bistrot, il y a la terrasse. C'est en ça que c'est le centre social au sens échange entre les humains, hein, pas le centre social au sens éducatif, éducation populaire du terme. Hein. C'est ça.
Au sens agora, quoi.
Au sens agora, voilà, c'est ça, voilà. C'est l'agora du quartier. C'est là que les couches sociales qui ont envie de se parler, se parlent.
Et j'imagine que quand on réfléchit à des équipements, on pense aussi à voir comment chaque équipement peut porter en lui quelque chose d'une agora, hein, sans doute. Alors les équipements dans le quartier des Belles de Mai, ils sont nombreux. On va parler de quelques-uns de ces équipements. Le comptoir de la Victorine, la friche de la Belle de Mai, là où nous sommes ici, la maison pour tous, les amis de l'instruction laïque, et puis un équipement en devenir, ou en tout cas espéré, souhaité depuis longtemps par Brouette et compagnie, la bibliothèque. Et pour préparer ce plateau, j'ai rencontré Anaïs Alliot. Bonjour, bonsoir Anaïs.
Oui, bonsoir.
Et alors on réfléchissait un petit peu à comment... comment se construit ce quartier au niveau de ses équipements? Est-ce que c'est intéressant de rassembler des équipements ou est-ce que c'est intéressant de les conserver diffus dans le quartier? Et alors tu es parti un peu parce que tu es urbaniste, Tu es parti sur une forme, disons, d'interprétation, mais toute personnelle, mais toute intéressante aussi, de ce quartier. Alors j'aimerais que tu nous parles un petit peu de toi, comment tu, en tant qu'avec ton regard d'urbaniste, comment tu vois ce quartier et la manière dont les équipements se répartissent dans ce quartier.
Alors, avant de parler de la manière dont les équipements se répartissent sur le quartier, peut-être qu'il faut faire un petit point sur ce qu'est la centralité. La centralité, Serge a évoqué la centralité sociale, c'est d'abord ça. La centralité, c'est d'abord une centralité humaine, là où se retrouvent les gens et le centre qui fait ciment identitaire, identitaire au sens le plus large qu'on puisse le concevoir. Une centralité, donc là, effectivement, sur la Belle de Mai, la centralité, elle est relativement bien installée entre, justement, la place Cafo et la place Cadenas. Par rapport à ce qu'a dit Serge, c'est tout à fait ça, selon moi.
Je suis d'accord.
Mais une centralité, elle peut à la fois s'étendre et à la fois se rétracter. C'est-à-dire que les équipements qui sont aujourd'hui présents sur cet espace, précisément entre la place Cafo et la place Cadenas, et dans les rues qui sont tout autour, si certains de ces équipements s'en vont, pour une raison ou une autre, ça peut mettre à mal une centralité qui, aujourd'hui, bien qu'établie de manière humaine et vécue par les habitants, n'est pas une centralité inscrite dans le fonctionnement administratif ou dans le fonctionnement plus global du quartier, d'un point de vue institutionnel ou...
C'est-à-dire qu'on est encore dans une centralité fragile, non instituée.
C'est ça.
Alors nous a rejoint autour de la table Alain Arnaudet, directeur de la Friche. Bonsoir Alain, je pense qu'il doit y avoir assez de micros pour que tout le monde ait un micro. Bonsoir Alain. Laure aussi nous a rejoint. Rappelez-moi votre nom de famille, Laure, pardon.
Rovera.
Laure Rovera. Jean-François également.
Bonsoir.
Bonsoir Jean-François, votre nom de famille ?
Jean-François Blondeau.
Jean-François Blondeau.
J'habite la ville de Mai.
Bon, je propose qu'on discute un petit peu, peut-être Claude ou Serge, peut-être qu'on peut travailler sur, parler de équipement par équipement, hein, et peut-être qu'on pourrait commencer par le comptoir de la ville. Oui, Serge ?
Moi, il y a un truc que je voudrais dire quand même, en préambule, alors, au risque de plomber la discussion, mais tant pis, je le dis, quoi. La notion de centralité, pour moi, elle est dangereuse. Parce que dans une ville comme la ville de Marseille, où on a tendance à raisonner en besoins et ressources, la centralité, c'est dangereux. La ville de Marseille, pour éviter de se poser trop de questions, peut-être, ou de se poser les bonnes questions, part du principe que si la ressource est au sud et que le besoin est au nord, ben, tout le monde va au sud, quoi. C'est pour ça qu'il faut éviter de parler de centralité. Enfin, il faut éviter, on m'en parlait là, puisque c'est quand même un peu aussi la centralité sociale, hein, ce que disait Anaïs. Moi, je dis qu'aujourd'hui, c'est un risque de trop évoquer la centralité d'un territoire, parce qu'après, on se défile. On dit, oh, bon, on est plus central, après, ça nous concerne moins, voilà.
Oui, je pense qu'il y a une petite confusion, excuse-moi, mais on ne parle pas de la sectorisation d'un certain nombre de ressources. On part au contraire que dans certains espaces, et on sait à quel point Marseille est morcelée, il est important que les gens puissent circuler des endroits à l'autre, mais que chacun de ces lieux, de ces quartiers, et le nôtre est très important, ont eu des atouts.
Oui, c'est ce qu'on défend.
Génies des lieux, des interstices dont on parlera tout à l'heure, mais en même temps, les habitants de ces quartiers-là ont des besoins, et la proximité, on sait aujourd'hui, par rapport aux populations, aux mères de famille, etc., est très importante.
Entre nous, on est d'accord, mais après, d'autres s'emparent de la centralité différemment.
Anaïs.
Oui, sur la centralité, ce que j'ai peut-être pas précisé tout à l'heure, c'est qu'il existe plusieurs centralités en termes de typologie, mais aussi en termes d'échelle. C'est-à-dire que là, je parlais de la centralité du quartier, donc à l'échelle du quartier, quel est son centre en termes de fonctionnement. Néanmoins, est-ce que la Belle de Mai est un quartier central aujourd'hui dans Marseille ? C'est encore une autre question.
On le verra dans le deuxième plateau, d'ailleurs.
Et quelle est la place de Marseille aussi dans autre chose ? Parce que le territoire aujourd'hui ne se vit pas seulement à l'échelle d'une ville non plus. Et donc voilà, il y a plusieurs échelles imbriquées et qui mène à des débats aussi après effectivement différents.
Moi, je suis très heureux que Alain Arnaudet vous soyez là, parce que la friche, c'est à la fois un équipement pris dans ces murs, mais c'est à la fois un projet de ville aussi, d'une certaine manière, un projet de voir comment la friche peut être un morceau de ville. C'est quand même un projet depuis longtemps, hein, dans la friche, porté à la fois par Nouvelle et Bouchain par la suite. Enfin, en tout cas, voilà, il y a une histoire de cela. Et donc, ce n'est pas pour rien si dans la friche, il y a une maternité. Ce n'est pas pour rien si dans la friche... Pas une maternité, une...
Oh, le beau lapsus, j'aurais rêvé que la maternité soit dans la friche.
Il y a une crèche.
Non,
pas encore.
Soit en lien avec la friche, plutôt.
Ceci dit... Bon, il y a une crèche, il y a le playground, c'est-à-dire cet espace de jeu, il y a un jardin, et puis peut-être bientôt des logements aussi. Je crois bientôt, hein, des logements. Oui, en tout cas, il y a un projet de logement.
C'est un projet qui est en discussion et qui va bientôt entrer en phase d'élaboration avec les futurs locataires, puisque ce sera un projet co-construit avec les futurs habitants.
Comment, quel est l'outil, disons, de la friche? C'est une coopérative, hein. La friche est gérée par une coopérative. J'aimerais qu'on en parle un petit peu de ça, du fait que c'est une coopérative. Claude, puisque tu es présente,
oui,
tu es membre de cette coopérative.
Je fais partie de la coopérative. J'ai payé pour faire partie de la coopérative. Elle a des actionnaires. Et j'étais l'actionnaire d'un collège dit de proximité qui permet effectivement à ceux qui le souhaitent de rentrer dans la pratique de la gouvernance de la friche, la UNSIC. Il y a les financeurs, il y a ceux qui ont voulu la friche, les résidents, et puis il y a ce collège de proximité où je vous inviterai à différents moments. On l'a agrandi récemment en permettant que le coût, disons, de l'action pour rentrer soit non pas de 2 200 €, ce qui était le cas jusqu'à maintenant, mais de 500 €. Donc renforçons le collège de proximité pour que les habitants, ceux qui se sentent complètement concernés par la friche, puissent être dans la gouvernance du conseil d'administration. Ça a été changé, les statuts ont été votés, les nouveaux statuts ont été votés à la dernière assemblée générale. Donc, et un certain nombre de gens, des brouettes d'ailleurs, en font partie. Mais une coopérative, c'est effectivement une autre forme de gouvernance que celle d'une association. Alain Arnaudet est le délégué général, n'est-ce pas Alain, c'est ça? Tu es directeur général, et c'est le CA qui, disons, c'est au CA qu'il rend des comptes de ses activités, et que le CA, effectivement, a un droit de regard important sur ce qui est proposé. Et alors, dans le CA, il y a aussi les élus, la ville de Marseille, c'est Madame Narducci, il y a également la région, et nous espérons un jour y voir le Conseil général, ce qui n'est pas encore le cas.
Dans un entretien que vous avez pu donner à un journal il y a peu de temps, Alain Arnaudet, vous évoquez donc ces projets de logement, vous dites voilà, il y a une histoire, et puis vous évoquez la possibilité aussi que l'accueil d'actions portées jusqu'à présent par la Maison pour tous, qu'éventuellement la friche pourrait accueillir un certain nombre d'activités. Cela a fait débat. Quand on a préparé cette émission, Serge disait j'aimerais qu'on parle de ça, de cette articulation entre, d'une certaine manière, la friche et le quartier aussi, hein, et les activités du quartier. Et puis quand on dit il y a beaucoup d'équipements, c'est aussi de voir, il y a des équipements, disons, forts et des équipements plus faibles. On sait le problème que porte aujourd'hui le comptoir de la Victorine, hein, qui est un équipement qui est un peu désossé, d'une certaine manière, ou peu investi, où il y a peu d'investissements financiers. Voilà, donc peut-être qu'on peut ouvrir la discussion, et peut-être que Claude et Serge commençaient d'abord, ou Alain, et je pense peut-être qu'Alain, vous pouvez commencer plutôt par présenter un petit peu c'est quoi le projet, et puis ensuite Claude et Serge, vous pourrez réagir.
En fait, comme vous le disiez, il y a on a un schéma directeur qui nous guide. Dans ce schéma directeur, nous construisons un bout de ville, où en tous les cas nous essayons que cette friche, ce territoire de 5000 m² en développé, hein, c'est pas rien, participe de la vie de son quartier, de son territoire, et traverse les murs de l'enceinte qui l'entoure. C'est, pour moi, c'est très important. C'est ce à quoi je travaille depuis maintenant 3 ans, et que c'est ce à quoi mon prédécesseur Philippe Fouquier aussi a travaillé pendant 20 ans. Donc, On travaille sur trois axes, la culture, le social, l'éducation. Et on expérimente, on essaie d'expérimenter petit à petit, hein, en construisant le projet, le croisement de ces trois axes. Aujourd'hui, nous avons un axe culturel qui est très fort. Nous développons un axe éducation et formation avec la création de l'IMMS. Et nous travaillons aussi sur le social via la crèche, via les jardins, vous l'avez parlé, vous en avez parlé, via aussi l'aire de jeu pour les enfants. Et bientôt, l'été prochain, nous inaugurerons des terrains de sport ici, hein, au pied de la tour, des petits terrains de street sport avec notamment un mini terrain de foot, un mur d'escalade, des agrès de gymnastique et de skate encore. Donc on voit bien qu'on est en train d'en faire aussi un endroit pour la jeunesse. Et se pose aujourd'hui la question sur le quartier du devenir, de la transformation nécessaire de la Maison pour tous qui aurait besoin d'espace, ou en tout cas qui aurait besoin de consacrer plus d'espace à certaines activités. Et il nous a paru opportun de participer à cet élan pour qu'une partie de l'activité de la Maison pour tous, et pas la totalité, parce qu'il est important que la Maison pour tous, que certaines activités, certains services qu'aura la Maison pour tous aux habitants restent au cœur du quartier, hein, mais que donc une partie qui est l'activité jeunesse puisse s'installer ici et bénéficier de toute la porosité, de toute la transversalité que nous essayons d'insuffler à ce projet, c'est-à-dire des espaces d'exposition, des lieux de pratique artistique, des lieux de pratique sportive, un endroit où les jeunes peuvent se sentir bien à l'aise pour s'ouvrir à la culture, à la création contemporaine, échanger et être bien.
Alors, il faut préciser que tout cela n'est encore qu'à l'état de projet, c'est encore à l'état de discussion et que ces projets prennent toujours un certain nombre de temps. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si il y a eu le désir dans cette radio là de se saisir de cet objet, c'est parce que parfois, bon, eh bien, c'est vrai que les élus parfois s'avancent, hein, s'avancent un peu vite, comme c'était le cas puisque cela avait fait, et Serge, je crois que tu veux réagir, parce que cela avait fait aussi l'objet dans la campagne électorale précédente, les élus s'étaient un peu engagé là-dessus. Alors, peut-être que Serge et Claude, vous pouvez dire un peu, vous, vos regards sur ce projet-là.
Moi, alors aujourd'hui, tout de suite, je pense que le piège à ne pas éviter, c'est opposer la friche et le quartier de la Belle de Mai et ses aménagements. Ça serait une erreur. On rendrait service à des gens qui, de mon point de vue, vont un peu vite dans la décision. Moi, aujourd'hui, si j'en veux à quelqu'un, c'est à nos élus. J'en veux à nos élus parce que argument de campagne électorale, ils ont développé le déménagement dans la Maison pour tous, parce qu'au départ, c'était le déménagement dans la Maison pour tous. C'est parce qu'après, une forme de contestation s'est installée et qu'ils ont commencé à comprendre que peut-être ils étaient allés un peu vite. Privilège de l'âge autour de ce plateau et privilège de l'ancienneté militante sur le quartier, j'ai vu évoluer les choses, j'ai vu se construire la Maison pour tous, j'ai vu l'état d'esprit dans lequel la Maison pour tous s'est construite. Donc aujourd'hui, la friche offre un certain nombre d'outils d'animation, que ces outils soient exploités par la Maison pour tous actuelle, que ces outils soient exploités par les écoles, les collèges, etc., et les habitants, oui, bien sûr, c'est à la disposition d'eux. Mais qu'on dise, on va déplacer la Maison pour tous pour la mettre à la friche, alors moi, au nom de ce que je représente en tant que président du comité d'intérêt de quartier, je dis non. Je dis non parce que notre quartier qui est dégradé socialement, qui est dégradé économiquement, qui a été oublié de tous les dispositifs d'aménagement, il faut savoir quand même qu'on n'est pas dans l'Euroméditerranée. Ça a été un combat des organisations mobilisées pour qu'il rentre à l'époque dans le GPV, qui maintenant est devenu le CUX et compagnie, Claude le sait mieux que moi. Il était dans rien du tout, ce quartier. Il était dans rien du tout, ce quartier. Et donc, ça laissait présupposer quelque chose. Mais ça, le constat de ce qui s'est passé, c'est que ce quartier a dégringolé, et socialement, économiquement, il est dans une détresse. On a, en tant que force organisée, en tant que citoyen, tout simplement, mais en tant que force organisée, on a un défi éducatif à relever. Et ce défi éducatif, il faut le relever, non pas en demandant aux gens d'aller vers l'outil, mais de rendre disponible l'outil aux gens qui en ont besoin. Et la meilleure façon de le faire, ça, c'est de laisser. Il n'existerait rien dans la Belle de Mai. On construirait une proposition d'un centre social à la Friche, ça serait merveilleux. Il existe quelque chose, et moi, je ne veux pas qu'au prétexte de ménager un électorat, je finis là-dessus, je ne veux pas qu'au prétexte de ménager un électorat, on fasse n'importe quoi dans le quartier.
Donc, si j'entends bien, c'est la question de la proximité là, qui vous intéresse particulièrement.
La centralité, on en parlait tout à l'heure.
Centralité et proximité de ces équipements déjà existants.
Au-delà de ça, moi, je pense que c'est très intéressant, et je l'ai dit tout à l'heure, que cette conversation démocratique nous amène à avoir des informations qu'en tant qu'habitant, moi je suis privilégiée, je suis partie du conseil d'administration de la Friche, donc j'ai les documents qui expliquent l'intérêt de la Friche dans le cadre du schéma directeur de construire 500 mètres carrés qui seront effectivement dédiés à des activités qui, se passent, enfin, qui ne pouvaient pas bien se passer à la Maison pour tous jusqu'à maintenant. La réaction première, c'est que c'est absolument inadmissible quelque part, que ça soit à l'occasion de cette radio, que ce projet de transfert de la Maison pour tous tel qu'il a été amené, tel qu'on l'entend ici et là, puisse nous être amené. L'absence de concertation, d'information de la part des élus sur ce projet-là, me semble quelque chose auquel, y compris la Friche, nous-mêmes, donc moi, puisque je fais aussi partie du CA, nous devons être extrêmement attentifs. Il ne faut pas être instrumentalisés comme effectivement ceux qui potentiellement vont être ceux qui vont diriger les transformations à venir. Et donc, je nous invite tous à prendre les positions qui seront nécessaires pour que ne soit pas désossé ce que moi j'appelle l'éducation populaire qui est à la Maison pour tous, qui est l'intergénérationnel que la Maison pour tous offre. L'interculturel avec les mamans, avec les femmes du quartier bien sûr, mais aussi avec les enfants, les artistes, ça se croise et ça se décroise. Et l'éducation populaire, c'est ça. Et enlever une partie de ce qui fait sa potentialité, sa recherche, sa ressource, en éloignant de la proximité pour les mamans, d'emmener leurs mômes à ces endroits-là, ça me semble être effectivement assez grave. Et en tout cas, il faut absolument qu'on s'empare de cette chose-là.
Laure.
Oui, moi je voulais simplement rajouter en fait que s'il y a des financements pour aménager une partie donc des activités sur la Friche, ça serait enfin, cet argent-là. Nous, au niveau de la Maison pour tous, on demande à ce qu'il y a des locaux justes qui touchent la Maison pour tous, qui soient préemptés par la ville pour agrandir. Donc il le faudrait absolument que les terrains de sport. Parce qu'en fait, si on touche les adolescents, toute la partie adolescente, tout ça, oui, ils peuvent monter sur la Friche, faire des activités. Mais demander à des familles, à des enfants, sur certaines activités, monter sur la Friche, je pense que en fait, c'est une erreur. Pour moi, c'est une erreur. Il faut qu'elles restent au cœur de la Belle de Mai, ces activités-là.
Alain Arnaud,
c'est effectivement l'idée, le projet, le début du projet. Donc on a encore le temps d'en parler, de toute façon. Rien n'a encore été construit et ça ne le sera pas sans qu'il y ait discussion, concertation, non seulement avec les habitants, mais également avec les professionnels qui, de la Maison pour tous qui seront bien entendu associés à la réflexion et à l'élaboration et la construction de ce projet. J'ai bien conscience... Vous savez, on a sauvé le Gypnis, on en a fait un cinéma. Avec Serge, avec Claude, on s'est mobilisé pour que, et vous-même d'ailleurs, toi, hein, je sais pas, hein, on s'est mobilisé pour redonner naissance à un cinéma dans ce quartier qui fonctionne, qui commence à bien fonctionner. Et on travaille avec les écoles, notamment du quartier. Il y a des séances régulièrement et je pense que ce projet va se développer. Donc, tout ça pour vous dire qu'on a bien conscience. De la nécessité qu'il y ait au cœur du quartier des activités qui perdurent, qui se développent, qui se renforcent. Aujourd'hui, cette Maison pour tous a besoin d'espace. Il y a aussi des contraintes budgétaires en face, du côté de nos collectivités. Et il m'a semblé que ça pouvait être pertinent qu'il y ait une partie de ces activités qui concernent effectivement la jeunesse, pas les familles, l'activité famille, toutes les autres activités ressources de la Maison pour tous resterait à l'endroit où elle se trouve actuellement, donc il n'y avait pas de changement. Simplement, on profiterait d'espaces déjà aménagés ici, qui se situent notamment dans la tour, qui sont déjà préaménagés. Donc on profiterait de cela pour, à moindre coût, développer une activité jeunesse ici. C'est ça l'intérêt. C'est-à-dire que pour, finalement, entre guillemets, pas cher, on pourra offrir aux ados, hein, du quartier des espaces d'expression, des espaces de découverte aussi, puisque de très bonne qualité, puisque ils pourront passer de l'endroit de travail autour de la Maison pour tous à un Fab Lab numérique juste de l'autre côté de la rue, à une radio, puisqu'ils seront en face de Radio Grenouille. Ils pourront monter un étage, aller voir une exposition, ou en descendre un, aller voir une autre exposition, aller à une librairie, aller à des espaces de sport, de skate, etc., ou des jardins. Enfin, il me semble que pour ces adolescents qui peut-être manque aujourd'hui d'espace, ne savent pas trop où se poser, on leur offre là, à mon avis, quelque chose, un projet intéressant. Mais j'ai bien conscience que cela se fera en concertation et aussi vraiment dans le souci de l'intérêt général. Et l'intérêt général passe par la préservation d'un outil de qualité au cœur du quartier.
Alors là, l'argument économique est un argument quand même tout de même important, hein, particulièrement aussi à Marseille, hein, dans une ville qui n'est pas forcément très riche par rapport à d'autres villes, dans un quartier aussi qui a des problèmes de financement. Comment vous répondez à cet argument économique ?
On est dans le débat économique. La Belle de Mai souffre cruellement de manque d'espace sportif. Il y a un stade à la place Burel qui est vide le soir après que les fédérations ne l'utilisent plus. J'ai interpellé un jour Jean-Claude Gaudin pour lui demander d'ouvrir le stade et permettre à nos jeunes d'aller taper dans le ballon en dehors de la structure rigide d'un club de foot. Jean-Claude Gaudin me dit, et là on est complètement dans le débat économique, il me dit, oui, mais si j'ouvre le stade, il faut que je paye un gardien. Et alors qu'est-ce que font les jeunes? Ils vont jouer au foot de toute manière, ils vont jouer au foot avec le ballon sous un bras, la pince coupante sous l'épaule. Et ils cisaillent le grillage pour pouvoir entrer. C'est ça le projet éducatif de la ville de Marseille, et c'est ça qu'on transmet à nos jeunes sur le terrain. C'est en ça que c'est vrai qu'il faut, on a tous le souci de à quoi servent nos impôts, mais aujourd'hui, à quoi servent nos impôts, et quand on ne dépense pas, c'est quoi la conséquence? C'est ça. Alors moi, le débat économique, on peut en parler toute la nuit, mais à un moment donné, là, c'est limite quand on connaît les conséquences.
Jean-François.
Oui, cette discussion, moi, m'interpelle un peu, parce que ce quartier, il a plein d'initiatives. Il y a plein d'initiatives, il se passe des choses, mais on cherche à les opposer. Et ça, je ne comprends pas du tout. C'est-à-dire que moi, je fréquente la Maison pour tous, je fréquente la Friche. Et je crois que justement, si nos élus, eux, ça les intéresse peut-être, hein, que les gens soient en opposition permanente, parce qu'au moins, ils peuvent jouer sur les uns, sur les autres. Nous, on n'a aucun intérêt à ça. On n'a aucun intérêt. Ce à quoi on a intérêt, c'est justement qu'il y ait des synergies entre tout. C'est bien évident qu'il y a des espaces ici, et que s'ils étaient aménagés pour les ados, ça serait mieux que de les voir, j'allais dire, jouer au foot dans la rue. Et encore, quand ils peuvent.
Ou cisailler les grillages.
C'est bien évident qu'il n'y a aucune raison, mais alors aucune, de supprimer la Maison pour tous, la déplacer. Elle est absolument bien placée. Les gens du quartier la connaissent, y vont. C'est très pratique. Donc, l'idée, c'est effectivement d'organiser cette synergie. Alors, ces synergies, c'est nous, en tant que citoyens, c'est à nous de le faire. Parce que moi, j'habite dans ce quartier depuis 5 ans, j'entends en permanence opposer, on nous dit « Ah oui, mais la Friche, c'est pas le quartier ». C'est des bêtises. C'est des bêtises. Quand on fréquente, on sait qu'il y a des gens du quartier qui viennent. Bien sûr, il n'y a pas tout le quartier. Mais tout le quartier ne va pas non plus à la Maison pour tous. Tout le quartier ne va pas à la place Cafo. Tout ça, ça ne veut rien dire. Ce sont des mots qui ne veulent rien dire. Par contre, on trouve de plus en plus de gens du quartier qui viennent. Ils viennent au marché. Il y en a qui viennent avec leurs enfants, qui viennent avec leurs enfants, parce qu'il y a de l'espace. Au moins, là, il y a un peu d'espace, même s'il n'est pas toujours aménagé pour eux. Il y a un équipement pour enfants qui, malheureusement, ne fonctionne, n'est toujours pas ouvert au public. Enfin, voilà. Donc, je crois qu'il faut faire très attention à ne pas opposer les choses. Par contre, en termes d'équipement, tout à l'heure, on a dit qu'il y a beaucoup d'équipements, mais il y a aussi beaucoup de manque de ces équipements, puisque tout à l'heure, on en parlera. Et en liaison d'ailleurs avec aussi le problème scolaire.
Je le disais tout à l'heure, la friche, c'est cette crèche aussi, c'est cet erge, ce jardin. Bon, la friche, c'est une coopérative dans laquelle, Claude, vous siégez, et vous siégez au titre de collège de proximité.
Yes. Donc,
collège de proximité, c'est-à-dire les habitants peuvent, d'une certaine manière, rentrer dans cette coopérative. Et en même temps, il y a Brouette et compagnie, collectif d'habitants, qui sont aussi inquiets, intéressés, qui veulent participer au devenir du quartier. Il y a le CIQ qui veut participer au devenir du quartier. Et puis, il y a la coopérative de la Friche qui, elle, se pose aussi des questions à l'échelle du quartier et non plus simplement à l'échelle de, disons, son territoire qui est la Friche historique. Est-ce que, du coup, cette coopérative, se saisissant de questions de un cinéma, un théâtre donc qui n'a plus d'avenir, l'Égyptis, qu'est-ce qu'on fait et comment on le transforme, une maison pour tous, qu'est-ce qu'on fait et comment on le transforme, est-ce qu'à un moment donné, cette coopérative, alors c'est ma perception, n'est-elle pas en train de devenir l'outil d'aménagement du territoire du quartier de la Belle de Mai? C'est sans doute une question qu'on peut se poser au regard de Gyptis et au regard aujourd'hui des projets, oui, et aussi alors, au regard des logements.
Je ne veux pas répondre à la place d'Alain, mais quand tu dis l'outil d'aménagement, non, moi j'ai envie de dire un outil d'aménagement. En même temps, là où la concertation peut avoir des choses à faire et à dire, on prend l'exemple du cinéma, et c'est en ça que c'est intéressant le partenariat avec la Friche. Quand le théâtre Gyptis devait fermer parce que la mise à disposition par le propriétaire arrivait à son terme, l'idée qui a surgi dans la tête de nos élus, c'est de construire un immeuble d'habitation. Là, on confirme un peu les doutes qu'on a tous de voir le quartier de la Belle de Mai se transformer en réserve foncière et après en grande cité. Quand on a su ça, on s'est mobilisé pour le dénoncer. Et très vite, on a établi des relations avec la Friche, parce qu'il y avait des choses à faire avec la Friche. Et là, le phare qu'est la Friche, le phare au sens, la puissance visuelle de la Friche, a servi. Et puis après, toute l'ingénierie derrière a permis de construire ce projet, qui est un vrai projet. C'est dans ça qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble.
J'aimerais une réaction d'Alain Arnaudet. Quand je dis, voilà, la SIC, la coopérative de la Friche, comme outil pour l'aménagement du quartier de la Belle de Mai.
Non, la Friche, elle est un élément qui est facilitateur pour certains projets. On est une ville de marins, donc peut-être pour prendre une image comme ça marine, avec cette proue du bateau avec la sirène qui est devant, comme ça, sculptée, qui est très belle et que l'on voit de loin. C'est un petit peu ça, finalement. La Friche, elle est la sirène, comme ça, qui attire le regard et du coup permet, facilite.
Mais elle est porteuse d'une vision, du coup, aussi.
J'espère bien qu'elle est porteuse d'une vision, mais elle n'est pas porteuse de la vision. Elle est porteuse d'une vision et qu'elle essaie de mettre en partage. C'est pour ça que nous discutons ici, aujourd'hui. C'est pour ça que nous avons travaillé avec les CUQ, avec les Brouettes, pour travailler ensemble, pour que ce cinéma renaisse. Et c'est comme cela que nous allons travailler autour de la maison pour tous et je pense autour d'autres projets à venir, parce que vous avez évoqué tout à l'heure la caserne du Muy. Je pense que c'est un sujet majeur des 10 prochaines années dans ce quartier qui pourrait être très très important pour le désenclavement du quartier dans les 10 prochaines années, j'espère avant, mais en tous les cas c'est un projet qui, à mon avis, va durer une dizaine d'années de redonner un espace public à vivre agréable aux habitants.
Claude.
Oui, la SIC, c'est aussi l'ensemble, c'est des représentants des 80 résidents, artistes qui vivent aussi ici et qui font que ce lieu est un lieu ressource et peut être un lieu ressource qu'il ne faut effectivement pas opposer, qui a sa valeur en termes de proposition par rapport à la transformation à venir du quartier, mais qui en aucun cas ne doit devenir ou se créer lui-même des murs en faisant L'expression qui avait été celle de Philippe Foulquier, j'en discutais avec lui récemment, une partie de ville, un morceau de ville, il faut faire extrêmement attention parce que ça peut être effectivement la contradiction dans laquelle on se retrouve finalement ici, c'est que ce morceau de ville soit presque en opposition avec le reste du quartier et construise son abbaye de Thélème avec son école, son machin, sa crèche, etc. et se crée à travers ça finalement de nouveaux murs. Donc ce que tout à l'heure Jean-François a dit me semble très important. Nous, là je me situe en tant qu'habitante et maintenant représentante d'un collège de proximité dans le conseil d'administration, je pense que nous avons à être extrêmement vigilants pour que le reste du quartier ne devienne pas, ne soit pas aspiré par, et ça, ce serait une volonté des élus, d'aspirer pour des raisons de foncier, parce que le foncier est disponible ici, effectivement, leur coûte moins cher qu'ailleurs, soit que le fait de mettre les choses ici, c'est moins cher que d'aller réhabiliter dans les conditions optimum leur lieu qu'ils ont, je dis leur lieu, puisqu'ils l'ont préempté et que c'est leur lieu du comptoir de la Victorine qu'ils ont complètement, qu'ils laissent dépérir. Et les conditions même de vie des artistes à l'intérieur deviennent de plus en plus préoccupantes. C'est étonnant que quand on parle d'agrandir des locaux, il n'y ait pas une concertation pour qu'on fasse le point ensemble des locaux disponibles sur ce quartier. 3000 mètres carrés ne sont pas utilisés au comptoir parce qu'il n'est pas viabilisé. Enfin, etc. C'est tout un ensemble qui montre que la concertation, et je l'avais dit tout à l'heure, c'est ce qui me choque le plus dans cette aventure, c'est qu'une fois de plus, comme ça a été le cas pour la maternité, où on a appris que effectivement, ça allait devenir du tourisme social, alors que ces locaux sont parcs, moi, c'est... Excusez-moi, c'est tellement douloureux pour moi de voir le seul endroit vraiment d'espace vert qui aurait pu être devenir un jardin formidable à la fois pour les enfants et pour effectivement tout ce qui nous manque et la bibliothèque, puisqu'on va l'aborder sans doute tout à l'heure, qui manque. Le trou noir de la culture ici sur ce quartier, c'est 45 000 habitants et pas de bibliothèque. Et donc, voilà. Et donc, attention, une grande prudence par rapport à la manière dont la ville est en train de nous instrumentaliser.
Oui, moi j'ai envie de dire attention à ce que la friche ne justifie pas le non-choix et les non-prises de responsabilité de tous nos élus.
Le temps passe. J'aimerais juste, avant de changer de plateau, Alain Arnaudet, peut-être une réaction, ou en tout cas par rapport à ce que dit Claude, quant à la prudence qu'il faudrait avoir vis-à-vis de la possibilité que, disons, cette coopérative deviennent pour des raisons de facilité, comme vient de le dire Claude Foncier, mais aussi parce qu'elle a un instrument, mine de rien, face qu'à un moment donné, les politiques considèrent que ça devient l'interlocuteur unique qui ferait qu'à un moment donné, tout est aspiré par la coopérative. Par rapport à cette prudence.
Je renverrai à la coopérative. C'est-à-dire que la coopérative a une gouvernance, a une assemblée générale avec trois collèges, collège contributeur, collège de proximité, les collèges résidents investisseurs. Ces trois collèges ont des représentants au conseil d'administration. Les conseils d'administration votent un projet qui est présenté par un directeur général. Moi, je suis assez légaliste. Je présente un projet. Il y a un conseil d'administration. Il le vote. C'est une coopérative. Et j'applique ce qui a été voté, décidé par le conseil d'administration, qui est mon patron. Hein, je précise. Pas la ville de Marseille.
Juste
ou une quelconque collectivité.
Il y a quelques années, dans une autre fonction, je rappellerai ce qu'il y a sur une tribune du Sénat. C'était avant que la SIC soit créée. Il y avait Philippe Foulquier et Bouchain, puisque je les avais invités à l'époque de mes autres casquettes.
Ils nous écoutent
à venir.
Foulquier, je le remercie oui. De sa présence.
il avait dit le fait de créer une SIC, elle nous permet de réaffirmer le caractère collectif de cette aventure et nous réinscrit dans une sorte d'engagement pour que nous puissions nous-mêmes fabriquer un projet culturel pour un projet urbain. Ce que je discutais tout à l'heure, la SIC est au travail. Il faut maintenant trouver les moyens de la mise en application. Et les moyens, c'est les moyens de la gouvernance et d'une gouvernance qui, effectivement, se frotter à une coopérative, c'est pas simple. On est tous en train de l'apprendre. Ça fonctionne pas comme une association. Et c'est donc une gouvernance démocratique qu'avec les collègues résidents et les contributeurs, on est en train de créer. Voilà.
Merci beaucoup Alain Arnaudet d'être venu. Je ne sais pas si vous, je crois que vous ne pouvez pas rester avec nous, mais en tout cas merci d'être venu. Nous on va continuer la discussion car nous allons continuer à parler des équipements et notamment hein, de la question de la caserne et de la concertation qui s'est jouée autour de cette caserne du Muy.
Désolé, excusez-moi.
Dans toutes les rues de Marseille,
oh, mignon, j'ai la dans les yeux,
sur la canebière ou le cou, les femmes sont fraîches et vermeilles, tout comme des pommes d'amour. Ça n'est qu'à filles de jolies brunes, mais moi, je les regarde pas. Car j'ai le béguin que pour une qui m'a rendu un peu fada.
Eh ben, va te faire soigner, toi, Toulouse.
Elle est de la belle de mai et sous le voile à mon secret. Y'a une petite à la belle de mai, coquine de sort. Qu'elle me plaît, elle a une jolie poitrine, le reste se devine. On se fréquente, on se voit chaque soir, et je me dis, rempli d'espoir. Cette petite de la belle de mai, je me suis mordu, ça c'est bien vrai, je la veux et je l'aurai.
Tire un peu ta robe comme tu vois tout le monde.
Mais si ça me plaît à moi.
Tu vas pas sortir comme ça quand même.
Mais qu'est-ce qu'il y a?
Lorsqu'arrive le dimanche, alors moi je m'habille bien. Elle vous sort sa robe blanche, à mettre en enfer tous les seins. Tous les jeunes la trouvent belle, je leur dis comme ça, pas moins. Oh, je vais au balette avec elle. On prend le tramway des Camoins. Là-bas, on danse à petits pas. Je pense à Léane dans mes bras. Y'a une petite à la belle de mai, coquine de sort, qu'elle me plaît. En dansant lorsque je la guiche, tout contre moi je l'esquiche. Elle me dit,
tu danses bien, comme c'est bon, oh mon tité.
Cette petite de la belle de mai, dans quel état elle me met, je la veux et je l'aurai.
Alors qu'est-ce que t'as dit, une belle situation?
Il est sale le sou, mais maman qu'est-ce que je l'aime.
Eh ben ça me perd.
Enfin je lui ai dit, je t'aime. Elle répondit en riant,
ben, tu te décides quand même. Ah, on se mariera au printemps.
Maintenant que je vous quitte, un conseil avant de partir. Si vous aimez une petite, ne la faites pas trop languir.
Oh oui, je me languis.
Préparez votre compliment et allez dire à sa maman. Oh bah d'abord,
c'est pas lui au moins.
Y'a une petite à la belle de mai, coquine de sort, qu'elle me plaît. Elle est si mignonne, peu chère. Dites, c'est tout le portrait de sa mère.
Prenez-la.
Qu'elle vous répondra, si je l'ai eu, c'est comme ça. Et la petite de la belle de mai, j'avais raison quand je disais, je la veux et je l'aurai.